On s'attache à cette ville aussi pour ça.
Ah mais bien sûr, ouais. Non, mais bien sûr, les premières mobilisations que j'ai participé, auxquelles j'ai participé, j'étais pas du tout dans l'appareil, c'était lors d'une grosse restructuration qui avait eu à monter, et puis il y avait un appel à manifester, je suis allé, bien sûr que ça qu'on s'attache aussi pour ça, quoi, mais c'était plutôt l'ambiance. Ouais, c'était mais presque une vision romantique des choses, parce que depuis l'hôpital, vous aviez cet immense site, parce que c'est quand même assez impressionnant, oh. Puis on dit, mais il y a des millions qui sortent de là. Nous, quand on était à Fuy, on avait mes amis, quand ils avaient leur père qui rentrait à la CIBA, c'était le début de la fortune, quoi, parce qu'il y avait les bus qui venaient, les cars qui venaient, puis les équipes, les gens qui étaient dans les équipes, ils montaient des bus, et puis c'est comme pour un paysan à l'époque d'aller chez Provins, c'était le début de la sécurité, ouais. Et lorsque vous étiez dans n'importe quel métier, puis, mon papa il est rentré à la CIBA, c'était la fête pour tout le monde, quoi, c'est clair que ça avait
une ascension sociale.
Voilà. Ouais. Effectivement.
Bon, le syndicalisme, du coup, alors quel chemin pour y arriver ?
Moi, j'ai répondu à une offre d'emploi. Hein. J'ai simplement répondu à une offre d'emploi, mais j'ai toujours voulu. Ça, vraiment, mon papa, parce que moi, j'étais un petit peu le mouton noir de la famille. Tous mes frères et sœurs ont fait des études et tout.
Le rouge.
Ouais, le rouge, mais à l'époque.
aussi pour les études.
Ouais, j'ai eu un passé un peu compliqué pour les études. Puis mon papa me disait, Blaise, toi, tu préfères assistant social. Ça, c'est ce que souhaitait mon papa. Moi, je voulais pas être assistant social. Je voulais m'engager, vraiment m'engager, par exemple conseiller ORP pendant longtemps, conseiller ORP pour moi ça a été l'idéal indépassable de l'engagement. Puis après c'est clair qu'une fois quand j'ai vu une offre d'emploi pour secrétaire syndical à la FTMH à monter, vous savez, des fois dans votre vie vous dites ça c'est pour moi ou ça c'est pas pour vous, quoi. Et puis c'est comme ça que je suis rentré au syndicat, puis je pense que c'est la plus belle chose que j'ai pu faire de ma vie.
En tout cas, moi je vous connais depuis longtemps, je vous ai souvent interviewé, il y a quelque chose de très charnel avec ce monde là vous avez rappelé que vous êtes allé à l'enterrement de Mitterrand, moi je vous ai accompagné sur un rond-point pour aller voir les gilets jaunes, moi j'y allais pour faire un reportage, mais vous y alliez pour vivre cette fraternité populaire. On sent que ça c'est un truc qui vous motive à fond, hein.
Ah mais ça c'est vrai, et puis vous avez d'accord, on a super bien passé, on connaissait personne, on discute et tout, c'est comme quand on fait nos mobilisations, ou lorsque je vais le plus souvent possible faire des manifestations en France, mais on se sent porté par le groupe, se sent porté par lorsqu'on est ensemble sur le collectif, quand on fait des mobilisations, les manifestations à Berne, la manifestation annuelle, quand on rentre sur la place fédérale, juste avant de rentrer dans la place fédérale, quand tout le monde crie, tout le monde donne de la voix et tout, on sent que ça donne une force, ça donne une énergie. C'est vraiment quelque chose qui est très très beau à vivre aussi. Là, on travaille beaucoup, nous, avec des tambours portugais qui font un bruit. Mais vraiment, c'est vous rentrez fatigué, mais vous rentrez vraiment gonflé d'énergie.
C'est
quoi.
Comme être dans un virage de stade de foot, quoi.
Exactement. Exactement. Et puis on se bat de manière joyeuse, disons. On n'est pas dans la complainte. On est plutôt pour célébrer aussi le fait d'être ensemble. Il y a de l'amitié, il y a de la solidarité, il y a des petits regards comme ça. C'est vraiment des moments qui sont extrêmement forts émotionnellement.
Bon, on est le 1er mai, hein, c'est le 1er mai que cette émission est diffusée. On s'est vu, nous, un peu avant, mais on va parler en début de deuxième partie de cette aventure du 1er mai, hein, qui est devenue quand même une date importante pour le mouvement ouvrier, pour le mouvement syndical. On se retrouve dans un...
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Blanc. Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà, Blaise Caron, on se retrouve pour parler un peu du 1er mai. On est le 1er mai, c'est la fête du travail. Les mouvements syndicaux, hein, nés à la fin du 19e siècle, il y a toute l'industrialisation de l'Europe avec ce qu'on appelait les cadences infernales, avec la difficulté du monde du travail qui a compris qu'en se réunissant, en s'amalgamant, il y avait de la force, un rapport de force. Qu'est-ce qui veut dire le 1er mai ensuite ? C'est pas férié déjà, hein, contrairement à plein d'autres pays.
Alors effectivement, ça c'est déjà un symbole, hein, que le 1er mai soit pas férié en Suisse, ça montre quel est le rapport du politique avec le monde du travail. Parce qu'on entend tous les jours des informations sur la bourse. Par contre, sur le monde du travail, on en parle tellement peu qu'il n'y a même pas un jour férié pour ça. C'est pour ça que dans certains cantons, par exemple le canton de Neuchâtel...
Il n'y a pas un jour férié pour la bourse non plus. Après.
Non, mais parce qu'on en parle tout le temps, parce que c'est tous les jours la fête. Pour la bourse, c'est tous les jours la fête. Il n'y a pas besoin de la célébrer, d'avoir un jour particulier pour le célébrer. Mais dans certains cantons, je crois dans le canton de Neuchâtel, il y a eu des initiatives pour rendre ce jour 1er mai férié, et je pense qu'en Valais on devrait réfléchir, ça fait longtemps qu'on réfléchit à lancé une initiative pour que ce 1er jour, ce 1er mai soit férié, justement pour rendre hommage au monde du travail, parce que qu'on veuille ou non, ce sont des salariés, que ce soit dans les chantiers, dans des usines, dans les magasins, partout, qui créent la richesse ici comme ailleurs. Donc ça serait vraiment le jour pour rendre hommage à l'engagement des salariés pour la création de la richesse dans ce pays.
Moi, je vais mettre un peu de poil à gratter, Blaise Caron, en marchant pour venir vous retrouver. Je me disais, le 1er mai à l'origine, c'est des manifestations qui se sont mal passées aux États-Unis. Il y a eu des morts, des condamnés à mort, d'ailleurs, des anarchistes condamnés à mort sans preuve parce qu'il y avait eu un policier tué. C'était un combat et c'était de la grève. Est-ce qu'en institutionnalisant le 1er mai, en en faisant un jour férié, on ne perd pas cette notion de la lutte, en fait?
Alors, je pense que le 1er mai, c'est plus un jour de commémoration que de lutte en tant que telle. Les luttes, elles doivent être menées. C'est ce qu'on essaye de mener dans le cadre de du syndicat Vie en Vallée. Elles doivent être menées sur les lieux de travail lorsqu'il y a un conflit. Parce que de dire 1er mai, grève pour tout le monde, c'est un jour férié, c'est pas la grève, c'est la fête à nono. Puis on mange de la saucisse, puis on chante international. Le 1er mai, c'est quand même une valeur symbolique de rassemblement aussi pour porter des discours, pour porter des revendications. Le premier 1er mai, il y avait une problématique de temps de travail. On voit que cette problématique, elle est encore sur la table actuellement. Il y a des même type de revendications à porter, mais la grève, la mobilisation, que ce soit la grève ou sous autre forme, elle doit se faire sur les lieux de travail lorsqu'il y a des conflits collectifs. Là, on est sur des bases défensives, mais elle doit aussi pouvoir se faire sur des bases offensives pour avancer, comme on a pu le faire par exemple sur la 13e rente AVS, où là il y a une mobilisation collective qui s'est faite pour pouvoir passer dans les urnes. Mais moi, je ne suis pas pour des mobilisations, au garde à vous comme à l'armée. C'est lorsqu'il y a un problème, on se mobilise et on essaye de créer un rapport de force dans le cas réel et concret que les salariés sont en train de vivre.
Voilà, le rapport de force, c'est cette notion-là, c'est cette appréhension-là, c'est la lutte des classes, c'est Marx, qui donne au mouvement ouvrier sa force et sa cohérence. Et puis, alors, on peut avoir deux lectures, on peut dire que les luttes ont permis des avancées, les avancées étant ce qu'elles sont, on n'a plus besoin de se battre, ça sera une vision libérale peut-être du monde du travail d'aujourd'hui. Puis on a celle qui doit être la vôtre, j'imagine, que non, il faut garder le rapport de force, il faut rester cohérent. Mais la constatation, c'est que le syndicalisme, ça marche pas en Suisse, ça marche pas en Europe. C'est difficile de motiver les gens à faire du commun.
Alors effectivement, mais je pense qu'il faut, d'abord la lutte, elle n'est pas terminée, elle fait que commencer. Mais effectivement, le discours dominant met en avant l'individualisme. Et nous, notre rôle, c'est justement de ramener la lutte collective au premier plan. C'est ce qu'on essaie de faire modestement, mais elle marche pas. Mais on peut pas dire qu'elle marche jamais. Certaines fois, il y a eu des grèves récemment en Suisse. C'est pas des grèves qui sont très très spectaculaires, mais malgré tout, il y a des grèves. On voit que par exemple maintenant, pas loin d'ici, on a un problème avec Tropac, il y a une mobilisation qui se fait. Il y a eu des mobilisations qui se sont faites dans le cadre de la construction, dans le cadre d'autres conflits collectifs où il y a c'est pas nécessairement des grèves, mais au moins des mobilisations collectives qui se font. Et nous, notre rôle en tant que syndicat, on est persuadé que c'est le seul outil qui permet d'obtenir des améliorations. Les négociations tapis vert, sans rapport de force, c'est pas des négociations. C'est un échange poli d'arguments. Parce que s'il suffisait d'échanger des arguments rationnels pour que les salariés et des augmentations de salaire ou des améliorations de leurs conditions de travail, ça ferait longtemps qu'on les aurait. Mais on voit que faire des négociations sans créer un rapport de force, au moins tenter de créer un rapport de force, c'est des négociations où les salariés sont toujours perdants. On l'a encore vécu cette année par rapport à la construction, où on avait dit on fait confiance au patron, on fait une négociation autour de la table, comme ça, il n'y a pas eu d'accord parce qu'il n'y a pas eu de mobilisation, et on a constaté que la moitié des salariés de la construction en Suisse n'ont pas reçu d'augmentation de salaire, et ce, malgré un renchérissement quasi à 2%.
Vous nous parlez de combats ponctuels, de mobilisation ponctuelle, le taux de personnes qui se syndiquent dans les entreprises, il est quand même très bas. Moi, j'en parlais avec Pierre-Yves Maillard quand il a quitté le Conseil d'État vaudois pour aller à la présidence de l'Union syndicale suisse. C'est le vrai défi. C'est ce que vous venez de nous expliquer là. Ça passe pas chez les ouvriers. L'individualisme a fait son œuvre.
Non, mais il faut être beaucoup plus nuancé. Par exemple, dans tout l'artisanat valaisan, même si c'est pas très spectaculaire, mais dans la construction, l'artisanat, les garagistes, on a plus que le 50% de taux de syndicalisation. Alors ça ne veut pas dire que le 50% des gens feraient la grève demain, mais quand même on a un taux qui est supérieur à 50%, parce que sans ça les conventions ne sont pas de force obligatoire. Sur la chimie montésane, on a un taux de syndicalisation, si on regarde la population qui est à la production, on a des taux qui se laissent voir. Mais c'est clair qu'on ne peut que augmenter, et on doit, c'est notre rôle d'augmenter ces taux de syndicalisation pour pouvoir créer des rapports de force. C'est pour ça qu'on a créé une IA aussi, parce qu'on avait constaté que construction, industrie, chimie, en grand ça allait, mais dans tout le secteur tertiaire, vente, hôtel, restauration, là on avait vraiment des déserts syndicaux, et là vous avez raison, on a tout à construire, on a des taux de syndicalisation.
Tout à construire encore.
Encore,
parce qu'il n'y a pas cette culture ouvrière, justement.
Mais bien sûr, et ouais. c'est notre rôle. On a des taux de syndicalisation.
Les luttes ouvrières, elles ont commencé avant les syndicats. Il y avait cette culture-là de la mise en commun, de faire des bourses pour ceux qui se cassaient la jambe, etc. Ouais. Tout ça, ça a fondé le syndicalisme, finalement.
Oui, mais tout à fait. Mais dans le tertiaire, mais il n'y avait pas le tertiaire, disons, beaucoup moins à l'époque. Ouais. On a des taux de syndicalisation de 2 à 3%. Alors, c'est clair que là, quand vous allez négocier avec des taux de syndicalisation comme ça, en fait, le patron, il vous donne ce qu'il veut. Ouais. Et puis, c'est notre rôle. C'est pour ça qu'on est payé, pour améliorer ce rapport de force en augmentant le taux de syndicalisation. Parce que quand même, si je me permets de me parler de notre organisation, Unia Valley est en croissance depuis qu'Unia existe. Et cette année, on a même battu notre record de croissance annuel. On a eu un taux de 4% de croissance. Donc ça montre aussi qu'en faisant un certain type de syndicalisation, un syndicalisme plus combatif, on a aussi plus facilement des gens qui se reconnaissent dans l'organisation, parce qu'ils ont l'impression que l'organisation essaye de tout faire pour améliorer leurs conditions de travail.
Vous avez évoqué le mot convention collective tout à l'heure. Les CCT, alors c'est la paix du travail en Suisse, c'est quelque chose qu'on nous envie, qui a bien des égards est admirable, mais est-ce que c'est pas ça qui éteint le combat, finalement? Est-ce que c'est pas un peu toujours le plus petit dénominateur commun pour les salariés?
Alors effectivement, moi je suis favorable aux conventions collectives lorsque les salariés s'y retrouvent, mais là on peut constater que sur les 10-15 dernières années, ces conventions collectives, elles ont servi à ce que les profits augmentent et qu'il y ait quasi pas de redistribution de la richesse créée. Donc il faut qu'on trouve un consensus en la convention collective, parce que malgré tout c'est un outil démocratique où les salariés participent à la définition de leurs conditions de travail, mais il ne faut pas que ces conventions collectives, sous couvert de conventions collectives, il n'y ait aucune redistribution de la richesse créée, si je pense au site chimique notamment, que ce soit par des améliorations du temps de travail, en diminuant le temps de travail, ou par rapport à des augmentations de salaire qui sont indignes de la richesse qui est créée sur le site chimique, par exemple.
Qu'est-ce que vous faites quand vous militez pas, Blaise Caron? Moi, je vous ai toujours rencontré, évidemment, dans ce contexte-là, hein, celui de la lutte, toujours très concentré, hein, je vous ai eu à des débats, parfois, à des moments d'échanges d'arguments forts avec des opposantes ou des opposants. Et par ailleurs, je vous vois souvent avec un bouquin. Qu'est-ce qui vous ressource?
C'est un peu bateau de dire ça, mais moi j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup la lecture. Je pense que je ne pourrais pas vivre sans la lecture, sans le théâtre.
Toujours un bouquin dans la poche?
Pas toujours, mais pas assez souvent, mais dès que je peux, oui. Là je suis en train de relire, ça va vous faire peut-être rire, et de relire Descartes, parce que j'ai lu le dernier livre de Mazarine Pinjot. La fille, maintenant vous avez vu, elle signe Mazarine M. Ah bon. Elle a mis le M, puis Pinjot, un livre sur le manque, je trouvais très intéressant sur l'approche qu'elle avait. C'était comment on a réussi à faire du manque, le sans sel, le sans gluten et tout, un argument de marketing. Mais bon, il était un petit peu accrocheur, son titre, parce qu'après c'était un livre de haute voltige philosophique. Je vous avoue que j'ai pas compris grand chose, parce que c'était vraiment du tout tout haut niveau, mais elle m'a redonné envie de lire Descartes, et là je suis en train de lire Descartes et ça reste quand même la classe, quoi. Je l'ai là. C'est vraiment très très beau de revenir aux fondamentaux comme ça. Puis ça permet aussi de prendre du recul, de se calmer, et puis de voir qu'il y avait vraiment des gens qui sont des génies, tellement c'est écrit de manière sobre, quoi. C'est vraiment très très beau.
Qu'est-ce que vous faisiez le 3 mars dernier?
Le 3 mars.
Ah, vous ne vous souvenez pas, hein, vous avez gagné 2 objets de vote le 3 mars dernier.
Ah c'était...
C'est assez rare dans votre camp pour qu'on s'en souvienne quand même. Oui, vous aviez la loi sur l'ouverture des magasins en Valais que vous avez porté. Et puis, le référendum contre cette loi. Et puis les retraites. C'est pas souvent une journée comme ça dans une carrière de gauche.
C'est le moins qu'on puisse dire. C'est tellement rare qu'on n'imprime même pas. Et puis on est focalisé focaliser sur le 9 juin, parce qu'on a aussi là des enjeux qui sont très importants par rapport toujours à la problématique du pouvoir d'achat. Mais là, j'ai fait mon travail de syndicaliste et tout, mais on était extrêmement contents. Mais on a aussi essayé de faire une super campagne d'un mois et demi avant de terrain, de proximité, pour porter ces objets qu'on considère comme très importants, bien sûr, pour la 13e rente, pour l'ensemble de la population, et aussi pour les vendeuses, de pouvoir protéger leurs conditions de travail. Ça a été, ouais, c'est vrai que, comme vous dites, c'est très très rare qu'on gagne sur des objets aussi importants que ça.
Il y avait une constellation. Hein, tout ce que vous vouliez refuser a été refusé, tout ce que vous vouliez accepter a été accepté.
Non, ça c'était le top. Quoi. Il faut qu'on ait le même dynamisme pour porter la campagne pour la limitation à 10% du revenu pour les
cotisations maladie. Ouais.
Voilà, les cotisations la malle, mais moi j'ai vu que les sondages étaient plutôt favorables pour avoir commencé la semaine passée les tractages devant les magasins. Je sens que, en tout cas actuellement, c'est pas le même enthousiasme, parce qu'on sentait pour le 13 mars, pour la 13e rente, on sentait quand même qu'on avait le vent dans le dos. Hein, mais là, je trouve que pour l'instant, on l'a plutôt de côté que dans le dos.
On finit rapidement parce qu'on arrive au bout, Blaise Caron. Vous avez une vie et un caractère de militant. Vous avez aussi une carrière politique député au Grand Conseil valaisan. Le rapport entre les deux, on dit souvent que ça peut se contredire au Parlement, il faut être patient.
Non mais carrière, attendons-nous, hein, je suis député, hein, je suis un humble député qui essaie de faire au mieux, mais je pense pas que j'ai une carrière politique. Mais moi, ma carrière politique, elle a du sens que par rapport à mon engagement du syndicat. Si j'étais pas au syndicat, je ferais pas du tout de politique. C'est la politique, c'est un moyen de faire du syndicalisme sous une autre forme, où là, on lutte de manière plus générale au niveau légal pour faire avancer les choses. C'est à ça que j'essaie d'utiliser mon engagement politique.
Merci Blaise Caron.
Merci.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
La minute hawaïenne
sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La minute hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Aujourd'hui, dans la minute hawaïenne... C'est quand même magnifique, la technologie. On arrive à des niveaux de ouf. Sérieux, regarde les voitures. Aujourd'hui, elles bipent. Il y a des capteurs de tous les côtés. Des caméras pour reculer, pour avancer. Des systèmes qui t'aident à te parquer. Ça bip. C'est magnifique. Après, ça ne prend pas en compte le facteur humain. Hein, parce que comment j'ai fait pour plier la voiture sur trois côtés différents en un seul mouvement, ça, je me l'explique pas. À part par le fait d'être un loser. Un gros loser. Alors, ne vous en faites pas, je vais bien. À part la voiture, rien de cassé. En plus, ça tombe bien, j'avais réussi à mettre du pognon de côté cette année, en cas de pépin. J'ai bien fait, je vais pouvoir l'utiliser. Et finalement, je me dis que dans la vie, ce qui est important, c'est de continuer à aller de l'avant et de faire gaffe avec les marches arrière. Voilà. Loser.
La minute hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La minute, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet, mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
Audrey Cavelius expose en ce moment du côté de la galerie Contre-Contre à Saint-Maurice avec Katia Zagoritis. Audrey Cavelius, bonjour.
Bonjour.
Déjà, nous expliquez votre démarche artistique. Qu'est-ce que vous présentez en ce moment à Contre-Contre?
Alors, personnellement, j'expose deux projets. Un projet qui s'appelle Série, qui est un travail qui vient du théâtre, en fait, parce que moi, je suis comédienne et metteur en scène à la base. Et puis après, j'ai un peu décidé d'aller voir ailleurs si j'y étais aussi. Et donc là, c'est un travail photographique et vidéo qui est présenté avec toute une série de performances. Pardon, pas de performance, de métamorphose corporelle, en fait. J'ai travaillé avec deux autres collègues, danseuses, et puis je leur ai proposé un cadre de travail qui était la transformation identitaire à partir de thématiques, à partir de matériaux, à partir de couleurs, à partir de formes, à partir d'émotions. C'était un peu... On piochait un peu partout, comme des intuitions, même, presque, et comme des moteurs de propositions de recherche. Et puis, voilà, je présente toute une série de photos. Et puis, il y a un deuxième projet qui s'appelle Visage, qui fonctionne à peu près sur le même principe. C'est aussi un travail photo et vidéo. Et là, en fait, dans le cadre de séries, différentes, bah, du coup, il y avait différentes photos, différentes propositions qui étaient faites. Il y en avait une qui m'avait, on va dire, passablement resté dans la tête, en fait, qui était tout simplement, en fait, un visage qui avait été peint sur le corps. Mais le propre visage disparaissait complètement, quoi. Le vrai visage de la personne, qui était en l'occurrence moi, j'étais le modèle de cette photo, disparaissait complètement. Et donc, du coup, ça s'est resté, puis j'avais envie d'en faire un vrai sujet. Le portrait lui-même, qui est quelque chose qui, à travers l'histoire de l'art, est complètement, se fait partout, se fait depuis tout temps et sans doute va continuer à se faire. Du coup, il y a tout un travail assez, à la fois très littéral de visage sur le corps et à la fois très symbolique, qui est avec un corps nu dans un élément naturel, dans la forêt, dans les choses comme elles sont, de faire apparaître des visages, de les faire apparaître et disparaître. Et en fait, c'est tout un travail sur tout ce que je fais, moi, j'ai l'impression, j'essaye, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'identité. Et donc là, c'est comment présenter l'identité dans ce qu'elle est profondément, c'est-à-dire un processus dynamique qui ne s'arrête jamais, en fait, qui est tout le temps entre la construction et la déconstruction, qui est toujours en mouvement. Et s'il n'y a plus de mouvement, en fait, il n'y a plus d'identité, en fait, c'est la mort, quoi.
Merci, bah, Audrey Cavelius, vous venez de nous résumer magnifiquement cette exposition. Je vous interviewais parce que demain, le 2 mai à 19h à Contre-Compte, il y a une table ronde justement avec le double mot modèle, le modèle ou la modèle et modèle des apostrophes. Et justement, vous serez avec votre collègue Katia Zagoritis, une des deux intervenantes de cette table ronde. On retrouve aussi Walter Chup, historien de l'art, Sophie Gaudin et Emmanuel Courdenesse, qui sont justement des modèles, tout ça modéré par Thibaut Métro. Vous venez de nous expliquer, et puis on va comprendre justement demain de quoi s'inspirent vos expositions et cette table ronde. Il faut venir demain à Contre-Compte, contrecontre.com. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais. Programme de nuit.
Quand je dis que le MAG, c'est une région magnifique et racontée par la rédaction de Radio Chablais, je n'exagère pas, même pas un peu. La preuve, avec cette initiative pionnière dans le monde viticole suisse, dont nous partons à la découverte, avec l'association Ivorne Grandeur Nature, qui s'est donnée pour mission de transformer le domaine d'Ivorne en un exemple de développement durable. Pour nous en parler, nous avons Philippe Jex, président de l'association et vigneron de profession, et Thierry Heger, professeur à la Haute École de Changin, qui ont tout de rappeler l'importance de la transition écologique dans le monde viticole. Ils l'ont fait au micro de Julie Gay.
Préoccupation écologique au sein de la population et à une conjoncture économique difficile, le secteur vitivinicole se trouve contraint d'agir de manière proactive pour anticiper les événements à venir. C'est dans ce contexte qu'est née l'association Ivorne Grandeur Nature à la fin de l'année 2019. Sans visée lucrative et apolitique, cette association s'est fixée pour objectif de faire d'Ivorne la première appellation suisse entièrement dédié au développement durable. Son président, Philippe Jex, également vigneron, nous fait le dessin du domaine de cette commune chablaisienne.
Ce domaine viticole, on le voit si vous arrivez par l'autoroute et que vous venez en direction d'Ivorne, c'est un vignoble qui est extraordinairement homogène. On ne peut pas dire qu'il y a de mauvaises vignes et des vignes extraordinaires. Il est d'une altitude moyenne, il est d'un seul bloc, à peu près exposé à la même direction d'onde du midi, ça veut dire sud-est. Si vous comparez avec d'autres vignobles qui sont proches de chez nous, il est beaucoup plus homogène par son exposition, par sa pente, et puis surtout par ce terroir incroyable qui est en partie une terre d'éboulis. Donc c'est un peu, si j'ose dire, le château neuf du Chablais, puisqu'on a des terres qui sont extrêmement graveleuses, calcaires et absolument idoines pour la culture du Chasselas en particulier.
158 hectares appartenant à 85 propriétaires. Mener un projet de cette envergure, c'est audacieux, selon Philippe Jex. Alors pour qu'il puisse se réaliser, il fallait être crédible, dit-il, et de facto travailler avec des organisations qualifiées. C'est dans cet esprit, et avec le soutien financier de la Fondation MAVA, engagée dans la conservation de la biodiversité, qu'est née la collaboration entre l'association Ivorne Grandeur Nature et la Haute École de Changin. Un partenariat qui a abouti, entre autres, à la création d'un catalogue évolutif de recommandations pour encourager l'adoption de méthodes durables. Thierry Heger, professeur à la HES de Changin.
Ce catalogue contient de nombreux aspects liés à l'enherbement, liés à la gestion des sols, liés à la gestion de l'eau, à la protection de la vigne, à la biodiversité et aussi aux cépages résistants. Donc ça, c'est un cahier des charges assez global et les vignerons doivent suivre les mesures de base et les mesures intermédiaires. Et en plus de cela, ils peuvent choisir des mesures avancées. L'idée, c'est d'avoir un cahier des charges évolutif et chaque année, en fait, on modifie le cahier des charges. Comme ça, ça permet, en fait, d'avoir des mesures de plus en plus durables, mais respecter, justement, les contraintes qui sont liées à ces éventuelles mesures.
Autre projet mené dans le cadre d'Ivorne Grandeur Nature, un projet de thèse qui vient de débuter et qui sera mené par Serena Fantasia. L'objectif de cette thèse est de mieux comprendre quels sont les effets de la sécheresse sur le vignoble. On retrouve Thierry Eger.
C'est une expérience très ambitieuse où on a installé des serres et sous ces serres, en fait, on va simuler différents épisodes de sécheresse qui permettront de mieux comprendre en fait quels sont les impacts de la sécheresse non seulement sur le vignoble mais également sur l'enherbement et le sol. Donc ça, c'est une approche extrêmement originale et on va faire de nombreuses mesures au niveau de la température, de l'humidité. Il y aura aussi des analyses qui vont être faites sur la qualité des baies, des micro-vinifications, pour vraiment bien comprendre quel sera l'impact de ces sécheresses sur le vignoble.
Un projet de thèse, un catalogue de mesures, voilà des exemples d'actions concrètes d'Ivorne Grandeur Nature qu'elle aime partager. C'est ainsi que le 2 mai prochain aura lieu la deuxième journée de la biodiversité à Ivorne. Après une première édition réussie, l'association invite à nouveau la population à découvrir les aménagements réalisés et les mesures culturelles mises en œuvre pour une viticulture durable. On retrouve le président de l'association, Philippe Gex.
Ce projet Ivorne Grandeur Nature concerne tout le monde et il faut vraiment encourager, que ce soit les producteurs, les vignerons ou les gens d'Ivorne, les encourager à s'y intéresser parce que c'est un projet audacieux et de grand intérêt. Et puis on peut juste, en complément de ce que vient de dire Thierry sur ce travail de thèse de Serena Fantasia à Ivorne, c'est un projet sur 3 ans qui est extrêmement important, très important, avec beaucoup de participants, étudiants, etc., et scientifiques. Il faut bien sûr financer tout ça. Et on a la chance dès le départ d'avoir un partenaire qui a compris l'intérêt de ce genre de projet et qui a pu financer cette démarche, en particulier cette thèse à Ivorne. Et je dois avouer qu'on a, j'ose dire, une longueur d'avance, en tout cas une chance extraordinaire d'avoir avec nous des mécènes de ce genre-là.
Et on vous rappelle que la journée de la biodiversité se tiendra ce samedi 4 mai de 10h à 16h au départ de la salle de la grappe à Ivorne.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
On continue ce mag avec un mot très difficile à placer dans une agrivoltaïsme. Il était pourtant au centre des discussions le week-end dernier à Sion, dans le cadre d'une rencontre intitulée « Le carrefour de la transition ». Un événement qui a permis de mettre en lumière ce potentiel peu exploité en Suisse. Mise en perspective par l'association AEE Valais Vallis, qui a pour mission de promouvoir les technologies d'énergie renouvelable, l'agrivoltaïsme demeure encore méconnu du grand public. Pour y voir plus clair, nous avons rencontrer le président de l'association, le chablaisien Pascal Dubosson. Ne vous en faites pas, il commence par nous expliquer ce que c'est.
Alors l'agrivoltaïsme, on comprend qu'il y a agriculture dans le terme, donc en effet, c'est cherche à combiner agriculture et photovoltaïsme. Donc pas simplement à mettre des panneaux solaires dans un champ et puis laisser les vaches brouter dessous, mais vraiment combiner des cultures, en l'occurrence principalement des cultures de petits fruits, ça peut aller des fraises, framboises, myrtilles, éventuellement de la vigne, avec du photovoltaïsme qui permet d'amener une protection contre les aléas climatiques et puis également donc produire plus d'énergie pour des cultures au niveau maraîcher qui actuellement, quand il y a des serres, bon, sont chauffées avec des énergies fossiles.
Alors sur le papier, ça sonne très bien, mais je suppose que dans le concret, il doit y avoir des éléments complexes. Est-ce que l'agriculture, les énergies renouvelables, ça fonctionne très bien ensemble dans cette dynamique-là, dans ce projet-là ?
Alors c'est très complexe, il y a peu de recul et c'est vrai que ça fait plusieurs années que l'Agroscope fait des recherches sur ce sujet, donc il y a des installations tests qui sont en service. Et sur certains types de fruits, ils voient des rendements qui sont comparables à d'autres solutions sous des tunnels. Par contre, c'est vrai que sur d'autres cultures, c'est pas adapté. Donc, il faut faire des recherches pour chaque type de fruits et puis éventuellement même sur chaque lieu parce qu'on peut retrouver différents rendements au niveau de la culture des fruits en fonction du lieu et des climats. Mais par contre, ça peut nous protéger contre des allées climatiques, la chaleur en été, donc on peut diminuer la température d'environ 6 degrés sous des panneaux solaires, ce qu'on n'a pas forcément de la possibilité au niveau des tunnels. Et puis on peut éventuellement aussi protéger contre le gel et ou des fruits qui mûrissent trop vite.
Et comment se comporte le monde agricole face à cette nouvelle dénomination d'agrivoltaïsme? Est-ce que là aussi, il y a non seulement une ouverture d'esprit, bien évidemment, mais je suppose aussi des questionnements sur le fonctionnement?
Alors, je pense que les agriculteurs ne seront pas les premiers demandeurs pour ce genre de solution, mais ils ont des exigences, par exemple, au niveau de l'association des fruits suisses. Ils doivent arriver à 80% d'énergie renouvelable d'ici 2030 et 100% d'énergie renouvelable d'ici 2040 pour leur production. Donc au niveau des serres, typiquement, il faut arrêter avec ces chauffages au mazout. Et donc, ils vont devoir passer à d'autres solutions. Mmh. Alors, ils ne vont pas forcément réussir à tout produire, ou peut-être qu'il y aura trop de production de photovoltaïque à une certaine période, mais ils pourront, compléter leur revenus agricoles avec du solaire et puis l'utiliser sur place dans la mesure du possible.
Donc, il y a bien évidemment le rôle du politique dans cette prise de conscience collective qui doit émerger comme ça.
Oui, et puis c'est vrai que dans notre association, au niveau du comité, on a deux parlementaires qui sont au Grand Conseil, et c'est vrai qu'ils ont déjà posé plusieurs fois la question sur ce thème pour que le canton fasse également avancer les choses. Et c'est vrai que le canton a un rôle également à jouer pour promouvoir ce type d'installation. On voit que maintenant, on veut mettre des panneaux solaires dans les montagnes. Je ne vais pas rentrer dans le débat.
On en a passablement parlé, effectivement.
On veut mettre des panneaux solaires sur l'autoroute ou sur des pistes cyclables, donc déjà sur des éléments qui sont bâtis. On a entendu dernièrement une entreprise veut mettre des panneaux solaires dans un champ actuellement utilisé par des agriculteurs. Je ne me prononcerai pas dans le détail sur ces différentes options. Il faut, c'est clair, mettre de plus en plus d'énergie renouvelable à disposition pour réussir la transition énergétique. Maintenant, l'agriculture, d'installer des panneaux solaires avec ce type d'installation permet de participer. On estime à une hauteur de 6 TWh le potentiel d'agrivoltaïsme. Donc 6 TWh, c'est ce qui est produit actuellement en Suisse avec des installations photovoltaïques. Et on peut aussi dire que maintenant, ça devient de plus en plus compliqué à trouver des grosses surfaces au niveau des toitures. Le potentiel commence à être épuisé. Il y a des propriétaires qui vont peut-être jamais mettre des panneaux solaires. Il y en a qui l'ont déjà fait. Ceux qui l'ont déjà fait, ça produit chaque année, mais on ne va pas augmenter la production avec ce type d'installation.
Donc, on va donc bien retenir ce terme agrivoltaïsme. Je suis sûr que c'est un terme qu'on va entendre encore plusieurs fois ces prochains temps. Et on rappelle que vous êtes donc le président de l'association AEE Vallée Wallis.
Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Pascal Dubosson, président de Vallée Wallis, était au micro de Xavier Borgeau. Un entretien que vous pouvez réécouter en replay sur notre site et notre application mobile, comme tous les autres d'ailleurs.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
On termine ce mag avec de la solidarité, parce qu'on est comme ça dans la région, solidaire. Et on le fait à travers l'hôpital Riviera Chablais qui lance une campagne de dons de sang. Comme l'an dernier, l'établissement Valdo-Valaisan collabore avec Transfusion Interrégionale CRS et organise 4 journées de dons de sang dans l'année. La première d'entre elles se tiendra vendredi à Réna, l'occasion pour Ludovic Turin d'aller rendre visite au directeur des soins, José Iglesias, et de rappeler l'importance de faire don de quelques gouttes de son sang.
On n'a pas de substitut qui le remplace, et dans beaucoup de situations cliniques et de problèmes de prise en charge dépendent aussi du sang ou de succédanées du sang qu'on doit administrer aux patients pour les préserver du risque qui peut être même fatal, hein, en cas d'hémorragie sévérissime. Ça peut aller jusqu'au décès du patient.
Pas de substitut, on comprend donc l'importance aussi de lancer ces campagnes de dons de sang. On l'a dit, 4 campagnes prévues sur l'année en collaboration avec le CTS, le Centre de Transfusion Sanguine. Expliquez-nous un petit peu peut-être la collaboration que vous avez avec ce centre.
On a été sollicité par le Centre de Transfusion pour voir s'il était possible d'organiser une collecte au sein de l'hôpital. On sait que l'hôpital a beaucoup de passages, hein, de personnes. Ça peut être un attrait aussi, et de savoir qu'on le fait à l'hôpital, on fait ses dons dans un environnement sécuritaire aussi pour ceux qui sont donneurs. Hein. Donc, on a fait cette première collaboration l'année passée qui était un succès. Et fort de ce succès, le centre de transfusion sanguine nous a demandé s'il était possible de réitérer l'opération. Et puis, cette fois, on part avec un programme de 4 jours sur l'année 2024.
Alors, on a dit 4 rendez-vous qui sont pris sur cette année 2024. Le premier, vendredi. Si, par exemple, je dois venir vendredi pour donner mon sang, comment ça se passe? Comment je suis pris en charge? C'est quoi, finalement, la marche à suivre quand on est donneur?
Alors, soit vous êtes donneur régulier et vous êtes déjà inscrit dans les registres du centre de transfusion, auquel cas les choses se font de manière assez simplifiée. Hein. Vous vous présentez, vous êtes connu, vous êtes dans la base de données, il faut simplement vous identifier. Et puis, votre situation d'état de santé est connue aussi par le centre de prélèvement, ce qui fait que le processus peut aller rapidement. Soit vous n'avez jamais été donneur, auquel cas il faut vous inscrire, il faut venir avec des documents d'identité parce qu'on souhaite savoir à qui on a affaire. Et puis, vous serez soumis à un petit questionnaire aussi pour permettre de connaître votre état de santé. On va vous faire des contrôles qui vont nous permettre de définir si oui ou non vous remplissez toutes les conditions pour être donneur. L'avantage de ce contrôle, c'est que vous avez aussi un petit bilan de santé, vous connaissez votre groupe sanguin, vous allez connaître certains paramètres de votre état de santé. Si tout est en ordre, vous passez au don. Donc le don se fait assez rapidement, c'est pratiquement une heure de temps pour faire le circuit plein, mais le don en tant que tel, en un quart d'heure, il est réalisé. Hein. Si vous avez l'intention de donner du sang, préparez-vous au préalable, mangez un peu, buvez assez. De toute façon, au terme du don, on propose une collation aux personnes qui ont donné le sang pour se retaper un peu.
José Iglesias, on le rappelle souvent, hein, à quel point l'importance de donner son sang est capitale. On le disait aussi tout à l'heure hors micro, une personne qui donne son sang peut potentiellement en sauver 3, voire 4. C'est évidemment une moyenne. Mais vous me le rappeliez aussi, et j'ai trouvé intéressant de le dire, le don de sang, c'est finalement presque comme un don d'organe, finalement.
Oui, parce qu'on peut considérer le sang comme un organe à part entière. Hein. C'est un organe qui a la caractéristique de pouvoir se régénérer et se régénère en continu. On donne son organe, mais on le donne de manière récurrente pour les donneurs qui le font avec assiduité. Donc c'est un don d'organe. Il faut l'assimiler à un don d'organe. C'est un don de vie, finalement.
Vous parlez de récurrence. Intéressant aussi de savoir combien de fois on peut le donner son sang, à partir de combien de temps on peut retourner du moment qu'on l'a déjà donné.
Jusqu'à 3-4 fois par année. Ils peuvent donner son sang. Voilà. Après, ça dépend aussi de l'état de santé, de où on se situe, par rapport à l'âge, etc. Mais 2 dons par année, c'est totalement faisable et sans risque, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sang se régénère.
Alors, on le sait, c'est important de donner son sang, José Iglesias. On entend souvent aussi que certains hôpitaux sont parfois à court de sang, parce qu'il y a une sorte de crainte, finalement, qu'on manque de sang. Est-ce que ça, c'est une réalité ?
Alors c'est une réalité, et au même titre qu'on n'est pas tous donneurs, on peut potentiellement être tous receveurs un jour. C'est ça que la population en général doit accueillir comme réalité, c'est que je peux être receveur parce que il y a un tas de situations pathologiques ou de problèmes qu'on traite à l'intérieur de l'hôpital qui nécessitent du sang, un élément aussi commun qu'une grossesse et un accouchement, peut nécessiter l'administration de sang selon ce qui se passe pendant l'accouchement. Donc voilà, toutes les situations de la vie peuvent nous amener à devoir être receveur. J'encourage, au même titre qu'on peut l'être receveur, d'être aussi donneur.
José Iglesias était au micro de Ludovic Turin, et toutes les informations sur ces différentes journées de dons de sang sont à retrouver sur le site internet de l'hôpital Riviera-Chablais.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Lonely.
Va des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
On est en direct de Aigle pour l'avant-dernière étape du Tour du Chablais. Il y a un de ces peuples, mon pauvre ami de Morges, record d'affluence aujourd'hui, plus de 1850 participantes et participants de tout âge. Mais on profite en fait de ce Tour du Chablais pour pouvoir découvrir un petit peu les villes et villages de notre magnifique région. Aigle, c'est quoi? C'est la question que je vais poser à Fabrice Cottier. Salut.
Mais salut.
Fabrice, toi en fait, tu fais quoi ici au Tour du Chablais?
Ouh, plein de choses.
C'est-à-dire, raconte un petit peu.
Je suis le président d'organisation de cette étape d'Aigle, organisée avec les trois clubs qui sont le Eagle Senior Hockey, le Basket et la Gym d'Aigle et l'Aigle Alliance. Donc, président d'organisation, je suis aussi donc municipal des sports de la ville d'Aigle. Donc du coup, ben il fallait être là.
De toute façon, t'aurais dû venir.
C'est la soirée où il fallait être là, effectivement. Et puis bénévole en même temps, donc voilà, donc on a plusieurs casquettes, mais c'est un vrai plaisir quand on voit le monde qu'il y a ici sur cette, dans cette cour du collège, c'est juste extraordinaire.
Bon, rentrons dans le vif du sujet, parlons d'Aigle. Pour toi, Aigle, c'est quoi ?
J'ai le droit d'être chauvin ?
Oh vas-y, c'est le moment idéal.
Bah Aigle, forcément, c'est la plus belle ville du monde, forcément. On est bien d'accord.
Ah,
non,
oui.
Mais c'est déjà ma ville de naissance, donc ville de cœur. Toujours vécu à Aigle, intégré à Aigle. Mais Aigle, pourquoi c'est beau? On a tout ici à Aigle. On a les vignes, on a un magnifique château. On a le cyclisme. Et on n'a pas que le cyclisme, on a le sport en général. On est proche du lac, on est proche des montagnes, des pistes de ski. On a une plateforme touristique qui est juste extraordinaire. J'ai parlé des vignes, mais on a des magnifiques vins, des magnifiques chasselas avec des vignerons qui se donnent vraiment la peine. Et je profite de compatir avec eux de ce qui vient de se passer avec le gel dans les vignes ces dernières semaines. Tout mon soutien en tout cas à ces vignerons. Mais connaissant le travail qu'ils font, on sait qu'ils vont sortir des millésimes extraordinaires.
Oui, alors effectivement, alors toujours avec modération, mais en règle générale, les vins dans la région, ils sont vraiment pas mauvais, bien au contraire. Et puis tu parlais du sport, qu'est-ce qu'on va avoir comme activité? Combien il y a de clubs? Qu'est-ce qu'on a comme club ici dans le coin? De tête, hein, comme ça, hein, c'est pas une question facile.
Non, on a près de, sauf erreur, près de 40 clubs de sport sur le territoire communal. Ça passe bien sûr du football, à la gym, à l'uni-hockey, basket, tennis... la danse, qu'est-ce qu'on a encore? On en a plein d'autres, je vais en oublier malheureusement.
Oui, à 40 mais
la lutte suisse également, le volleyball, enfin il y a un choix incroyable pour notre jeunesse de pouvoir faire du sport dans notre belle ville.
Et en plus de ça, on n'est pas loin de la forêt finalement ici, si on a envie d'aller se balader. Je veux dire, l'écrin est parfait.
L'écrin est parfait et les coureurs de ce soir vont s'en rendre compte puisqu'ils vont monter dans cette magnifique forêt du Failly pour redescendre, mais aussi pour remonter ensuite après par le château et ensuite redescendre. Ils vont bien se rendre compte que le territoire aiglon, il n'est pas forcément très plat.
En même temps, ils ne sont pas venus pour autre chose parce que c'est dans l'effort que la récompense est plus grande. Je te propose qu'on fasse une petite pause histoire de respirer un bon coup et puis après on revient pour continuer à parler.
Radio Chablais. Programme de nuit.
Pas des rétros, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, ben c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Un magnifique brouhaha ici à Aigle. Nous sommes en direct à l'occasion de l'avant-dernière étape du Tour du Chablais. Ça se termine déjà malheureusement. Mais je suis avec Fabrice Cottier. On parlait tout à l'heure de Aigle. La question c'est Aigle, c'est quoi? On a parlé du sport, on a parlé de cet événement qui a attiré autant de monde. Ça pouvait arriver qu'à Aigle, on est d'accord.
On est bien d'accord.
Le record battu. Il y a encore des gens qui s'inscrivent. À la dernière heure, c'était 1850 participantes et participants. Et là, il y a encore des gens qui s'inscrivent. Bon, moi je voulais te demander... Qu'est-ce qui fait la fierté des aiglons et des aiglonnes? Qu'est-ce qui rend fiers les gens d'ici? Parce qu'ils sont fiers d'être aiglons et aiglonnes, là.
Et bien sûr qu'ils sont fiers, mais parce qu'ils ont un cœur gros comme ça. C'est ça qui fait leur fierté. Et puis, c'est des gens sympas, on a un esprit... Même si on a une ville de 11 500 habitants maintenant, on a un esprit très villageois, les gens se connaissent. Et c'est ça qui donne la fierté d'être un aiglon. Parce que on a encore une fois un magnifique territoire avec un magnifique patrimoine avec le château et les vignes, capitale mondiale du chasselas, je le répète aussi.
On peut le dire.
C'est important, en même temps que capitale mondiale du cyclisme.
On peut le dire.
On peut le dire aussi. Mais effectivement, les aiglons, ils ont, comme je disais, ils ont un immense cœur et c'est toujours un vrai plaisir de pouvoir partager des moments avec eux. Parce qu'il le partage avec nous aussi.
Et c'est vrai qu'il y a cette notion de partage et puis de sympathie et de fête en fait. Alors peut-être que c'est quelque chose d'assez inhérent à notre région, que ce soit la Riviera, le Pays d'en Haut ou le Chablais. Mais il y a ce truc ici, il y a la braderie, il y a plein d'événements. Les gens ils sourient en fait. Il y a vraiment que ça. Comment tu l'expliques? Seulement par le paysage ou bien?
Mais il faut croire qu'ils sont bien ici. Si, souris. Ils sont très bien ici. Ils sont très contents de pouvoir vivre dans cette commune, dans le Chablais, parce que c'est vrai que la commune d'Aigle fait partie d'un magnifique Chablais avec diverses et beaucoup de propositions à faire dans ce Chablais. Je rappelle qu'on est plus de 100 000 habitants dans le Chablais. Et en fait, je pense que s'ils se sentent bien, on a tout aussi à proximité, comme je disais tout à l'heure, également les transports publics. On a une gare qui dessert quasi toutes les villes de Suisse, vraiment très bien, avec des cadences de train qui sont maintenant pratiquement toutes les 15 minutes. Et franchement, on peut être que bien ici. Et puis, encore une fois, on a un excellent chasse là.
Alors toujours avec modération, mais c'est vrai que souvent dans les communes qui sont viticoles, on a une ambiance comme ça un peu plus festive qu'ailleurs. Alors moi je suis montaisan, hein, non, on a l'ambiance festive sans forcément produire du vin, mais il y a toujours ça.
Oui, c'est l'ambiance Carnotse.
Ouais.
Exactement. Donc on peut pas faire autre chose que d'être content d'être dans une ville comme celle-ci quand on a l'esprit Carnotse.
Ah, l'esprit Carnotse, tu vois, c'est la première fois que j'entends ça comme ça, et c'est vrai qu'il y a un truc. Qu'est-ce que tu pourrais dire un dernier mot pour mettre en avant cette magnifique commune?
Ben écoutez, je crois que en tout cas ce soir, ça montre que alors il y a pas que des Aiglons qui sont ici forcément, mais ça montre que cette étape, elle était attendue de tout le monde. Parce qu'on l'avait fait la même il y a 2 ans, et elle avait été très appréciée, le parcours avait été très apprécié. On a un magnifique comité d'organisation et des bénévoles qui se mettent à genoux pour les coureurs et les participants. Et puis ça montre que les gens se sentent bien de venir à Aigle et de pouvoir faire cette étape ici pour le Tour du Chablais.
Alors moi personnellement je me sens à chaque fois très bien à chaque fois que je viens à Aigle. Merci infiniment Fabrice Cottier. Je rappelle que tu es président du comité d'organisation de l'étape d'aujourd'hui, en plus d'être municipal au sport et participant total et volontaire à toute la vie aiglonne. Merci infiniment et une excellente soirée.
Eh bien, merci beaucoup à toi et puis salutations à tous les auditeurs. Merci.
Bonne nuit sur Radio Chablais. Bon.
Sur le grill.
Nouvelle génération, c'est une conférence qui a lieu ce 5 mai à 18h à Martigny. On en parle avec Yam Delaloy. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui.
Avec plaisir. Alors Yam, il y a tout un parcours à expliquer. Déjà, juste expliquer cette conférence Nouvelle génération qui vous tient spécialement à cœur. Pourquoi et qu'est-ce qui va se passer à Martigny ce 5 mai?
Alors ce 5 mai, nous allons accueillir 7 jeunes de la région qui ont fait des parcours atypiques, qui ont fait des levées de fonds pour des associations, qui ont fait des aventures dans la nature, qui ont apporté quelque chose de positif à la société, qui vont pouvoir nous parler un petit peu de tout ça ensemble.
Le but, c'est qu'ils parlent en fait de leur expérience et qu'ils transmettent un petit peu leur jeune expérience et jeune savoir pour montrer qu'il y a des jeunes qui se bougent.
Exactement, exactement. C'est vraiment de pouvoir apporter au maximum de l'espoir un petit peu dans cette société qu'on a besoin actuellement.
Alors justement, cette conférence, elle sera au profit d'une fondation, c'est la fondation Moi pour Toi, dont vous faites partie. Expliquez-nous les buts et raisons de cette fondation, la fondation Moi pour Toi.
Alors la fondation Moi pour Toi aide les enfants défavorisés de la région de Pereira en Colombie. Étant adopté moi-même en Colombie, ça m'est paru logique et normal d'apporter mon aide aux enfants qui n'ont pas eu la même chance que moi.
Alors vous avez participé à une récolte de fonds, si je ne me trompe pas, l'année passée. Vous avez fait une marche de 112 km sur 24 heures, vous avez récolté 10 000 francs. Pourquoi vous avez ressenti ce besoin? Vous l'avez dit, vous êtes vous-même colombien d'origine, vous avez été adopté, donc vous vous sentez proche de cette fondation. Mais pourquoi ensuite on passe l'étape tout à coup de vouloir récolter de l'argent?
C'est un projet où j'ai voulu allier hommage avec le décès de mon ami à travers cette marche de 24 heures et 112 kilomètres, et en même temps apporter du soutien. Je me suis dit on allait faire un complément, de pouvoir faire un hommage digne de ce nom et en même temps pouvoir aider les gens.
Suite à la disparition d'un ami, vous vouliez participer, faire quelque chose, être actif justement, puis récolter de l'argent dans ce parallèle. Ce projet s'appelait UPEC. Ça voulait dire quoi, UPEC?
UPEC voulait dire un périple de persévérance et de courage, donc une marche de 24 heures et de 112 kilomètres, avec énormément de préparation, mais qui a pu rendre beaucoup de personnes heureuses.
Alors, quand vous récoltez ces 10 000 francs, quand vous êtes en train de marcher, comment ça se passe dans votre tête à ce moment-là, l'année passée?
Beaucoup de stress, beaucoup de préparation, évidemment. On ne se rend pas vraiment compte de la marche qui arrive jusqu'à quelques jours avant. Un peu comme ce qui est en train de se passer actuellement aussi. On commence à sentir le stress un petit peu de la soirée qui va arriver. Mais on travaille et puis on essaye de garder la tête dans le guidon jusqu'au jour J.
Alors la conférence, on va en reparler dans quelques instants, mais entre justement faire une conférence, préparer une conférence et préparer 112 bornes de marche pendant 24 heures, physiquement c'est un investissement différent, mentalement aussi quand même.
Effectivement, c'est complètement différent, c'est un investissement qui est tout nouveau aussi, c'est un des nouveaux enjeux et puis un nouveau défi pour une nouvelle année.
Alors cette conférence Nouvelle Génération, expliquez-nous un petit peu qui va y avoir et ce que vous allez présenter.
Alors on aura la chance d'accueillir Marine et Diego, qui font partie de l'équipe Valais-Vallis Racing Team, qui ont construit du coup une voiture de course totalement électrique et participé à la compétition d'ingénierie la plus grande au monde.
Alors justement, pour les jeunes justement et qui créent ce genre de véhicule, c'est une vraie compétition, hein, on le rappelle. Et puis ensuite, alors d'autres intervenants.
Exactement, on va avoir du coup Loïc Kaplan, aventurier un peu à la Mike Horn, qui a pu aller dans des biomes comme le désert, l'Amazonie et aussi l'arc polaire. On aura Maxence Roduit aussi, un ami qui a perdu l'usage de ses jambes suite à un accident de parapente et qui aujourd'hui marche de nouveau. Et puis on accueillera aussi évidemment Guillaume et Maxence, Guillaume Marais et Maxence Caron qui auront traversé le lac Léman à la nage aussi pour une association il y a quelques mois auparavant.
Je rappelle que des jeunes de moins de 30 ans, voire moins de 25 ans et qui s'investissent dans ces différents projets suivant les âges.
Exactement, approximativement dans ces âges-là.
On rappelle donc Nouvelle Génération en faveur de la Fondation Moi pour Toi, conférence Nouvelle Génération ce 5 mai à 18h à Martigny, à la salle communale, c'est bien ça?
Exactement, salle communale de Martigny à partir de 18h.
Moipourtoi.org pour toutes les infos, on se retrouve dans quelques instants, ok?
Merci, à tout à l'heure.
Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Sur le grill.
Avec Yam Dolaloy, un jeune qui se bouge pour la fondation Moi pour Toi. Il organise avec toute une équipe la conférence Nouvelle Génération ce 5 mai à 18h à la salle communale de Martigny. L'objectif, récolter des fonds justement pour la fondation Moi pour Toi avec différents intervenants. Rappelle-nous juste un peu les intervenants quand même, hein, Yam, parce qu'il y a quand même des chouettes jeunes qui sont des jolis exemples.
Alors, nous retrouverons Loïc Kaplan, un explorateur autodidacte qui a bravé la jungle, le désert et le grand froid. Nous aurons Maxence Roduit, un passionné de montagne qui a surmonté suite à un grave accident.
De parapente,
qui a failli lui coûter la vie.
Et puis qui fait maintenant des 4000.
Exactement.
Marine Rébété et puis Diego Cacciatore.
Deux étudiants de l'HES qui conçoivent une voiture électrique pour la compétition Formula Student, la plus grande compétition d'ingénieurs au monde dans le domaine.
Et puis toi, justement, entrepreneur et sportif, qui a marché 112 km l'année passée en 24 heures pour récolter 10 000 francs. Et Maxence Caron et Guillaume Marais.
Oui, fondateur de l'association Prime Athletics et qui ont effectué la traversée du lac Léman à la nage.
Qu'est-ce que vous allez raconter dans cette soirée? Pourquoi vous organisez cette conférence? Alors, pour soutenir, oui, mais quel message vous voulez passer?
Le message qu'on aimerait passer, c'est de démontrer que dans cette société qui... par moment, manque d'espoir, qu'il y a toujours une lueur.
Et puis que des jeunes peuvent se bouger et faire des choses, en fait.
Exactement, et que la nouvelle génération, comme le titre de notre équipe, est là pour pouvoir...
peut aussi se bouger.
Exactement.
Alors, il y aura aussi des démonstrations avec Dakota et Nadia pour des démonstrations de danse, les célèbres Dakota et Nadia, ainsi que Kevin et Natalia, ça c'est pour des
démonstrations. Radio Chablais et toutes nos web radios sur radiochablais.ch et notre application.
Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. I'm not afraid to die.
not dying. We say that we'll just screw it up in these trying times, we're not trying. So cut the headlights, summer's a knife. I'm always waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice, angels roll their eyes. And if I bleed, you'll be the last to know.
Te dit huissier, lui dit assis dans la merde. Qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde, et dit famine, dit tiers-monde. Et qui dit fatigue, dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus,
eh ben y'en a encore.
Et cela c'est tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben, y'en a encore. Eh ben, y'en a encore.
Eh ben, il y en a encore. But you drive me wild. I try to stop, I try to hold back from this obsession for you, but I can't turn it off. Oh, it's running in my veins, constantly.